Et ils vont très rapidement donc devenir amants. Tout le monde le sait, sauf Joël.
En effet, Nathalie Després précise que son mari Joël n'était au courant de rien. L'information paraît d'autant plus incroyable aux enquêteurs qu'ils découvrent que le mari et l'amant ne se partageaient pas seulement la même femme. Nous sommes le 5 février 2000, près de Cergy, en banlieue parisienne. En cette fin d'après-midi, deux hommes terminent leur partie de chasse. Ils rentrent chez eux, en marchant sur le chemin de halage, le chemin qui longe les bords de l'Oise.
Ouais, je marchais tout doucement avec mon cousin.
Ils sont sur le chemin de halage, ils ont un chien qui est en train de divaguer dans les bosquets qui sont aux alentours. À un moment donné, ce chien marque l'arrêt devant un espèce de trou qui s'est formé dans un terrain tout proche.
Le chien a fait une réaction bizarre. Ça fait que ça m'a fait attirer l'attention, j'ai monté le talus pour voir ce que c'était.
Pour les chasseurs, cela ne fait aucun doute. Leur chien vient de flairer un animal. Ils saisissent leur arme.
J'arrive prêt à tirer, je croyais que c'était un sanglier ou un harnais ou un truc comme ça, un nuisible. Quand je monte le talus, je me prépare, je guette un peu partout, je vois rien. Puis d'un seul coup, je baisse la tête.
Et au fond de ce trou, ils distinguent une masse. Ça les surprend un peu, ça paraît une masse brûlée.
Les deux chasseurs repèrent alors une forme étrange, entourée de lambeaux de tissu brûlé.
Il bouge avec un bout de ferraille là pour voir ce que c'est.
Mais j'étais pas sûr à 100%, ça fait que il a fallu que j'examine un peu tout ça. Quoi. C'est vrai que c'était impressionnant. Quoi.
En s'approchant à moins d'un mètre, l'un des chasseurs croit distinguer une forme humaine.
C'est le corps d'un homme. Le corps d'un homme brûlé, très largement brûlé.
Les deux chasseurs alertent immédiatement la police de leur macabre découverte. Une fois sur place, les enquêteurs isolent la scène de crime.
Les policiers, les pompiers, tout le monde arrive un peu sur place. La nuit tombe, il faut allumer des projecteurs pour éclairer la scène et faire les premiers prélèvements.
Et très vite, les premières constatations laissent penser que la dépouille a été volontairement embrasée.
Le corps a probablement été aspergé d'essence pour être enflammé parce qu'il y a des traces, une odeur, etc. qui émanent du cadavre.
Le corps n'est qu'à moitié carbonisé. Les enquêteurs en déduisent que seule une faible quantité d'essence a été utilisée. Et comme aucun bidon n'est retrouvé aux alentours, la piste du suicide est vite écartée. Tout laisse penser qu'il s'agit d'un crime barbare.
On a le sentiment d'être devant une tombe inachevée, qui n'a pas été, un corps qui n'a pas été enseveli.
Les hommes de la brigade criminelle prélèvent plusieurs indices pour tenter d'élucider ce meurtre atroce.
Sur le cadavre, ils vont saisir les chaussures qui sont maculées de boue et ils vont également prélever de la terre qui se trouve sur les lieux du crime, les lieux de la découverte du crime.
On trouve également dans ses vêtements carbonisés un téléphone portable très abîmé, inutilisable.
Une main gauche est détachée du corps, la main gauche porte une alliance.
La victime serait donc mariée. Et au vu de ses vêtements, il s'agirait d'un homme. Seulement, les policiers ne trouvent aucun papier d'identité ni détail permettant d'identifier le corps. Toutefois, un élément leur fournit une information précieuse.
Une montre également est à son poignet et cette montre est arrêtée à 2h15.
La découverte de cette montre et de l'heure arrêtée peut nous laisser penser que c'est le moment où le corps s'est embrasé, ou du moins... où la mort est intervenue.
Le meurtre aurait donc eu lieu aux alentours de 2h15. Mais impossible de savoir s'il s'agit du matin ou de l'après-midi, pour le moment. Finalement, c'est un simple morceau de papier retrouvé dans la poche de la victime qui va interpeller les policiers.
Lessive, assouplissant fleur de pêche, et lait. Et donc cet individu, on sait qu'il devait faire des courses, qu'il a dû faire des courses. Et acheter quand même ce qui ressemble bien à ce qu'on achète quand on a une famille.
Qui est ce père de famille qui a été assassiné alors qu'il partait faire ses courses? Le mystère ne fait que commencer. Comme il est d'usage dans ces cas-là, les inspecteurs élargissent leurs recherches à l'ensemble du secteur. Et ils se rendent compte immédiatement que leur tâche s'annonce très compliquée.
Donc on est dans un endroit complètement isolé en fait. Aucune habitation à proximité, l'habitation la plus proche est à entre 500 et 800 mètres. On est dans une zone de chasse en fait, et ce qui explique que ce soit des chasseurs qui aient découvert le corps.
Les voisins les plus proches n'ont rien vu. Les joggeurs et les promeneurs non plus. Il y a bien des traces de pneus, mais ont-elles été laissées par le ou les meurtriers ? Difficile à ce stade de l'affirmer, d'autant que les policiers sont confrontés à un obstacle qui a fait la une de l'actualité quelques jours plus tôt.
13 jours après la tempête qui a causé de nombreux dégâts dans les forêts domaniales de la région, l'heure est au bilan. De nombreux travaux de dégagement des arbres ont été effectués par les agents de l'Office national des forêts, notamment aux environs de Chantilly.
Le 26 décembre 1999, le nord de la France a été touché par l'une des plus grosses tempêtes du siècle. Une partie des forêts a été décimée. Et pour les enquêteurs, c'est un sérieux handicap.
On est à peu près 3 semaines après la fameuse tempête de décembre 99. Donc les bois sont assez endommagés.
Il y avait des pancartes arrachées, des arbres desséchés, des toitures qui se sont volées. Donc c'est vrai que bon, il y a eu des débris partout.
En plus, c'est un endroit où il y a beaucoup de décharges sauvages. Donc on trouve tout un tas d'objets, que ce soit un vieux lave-linge qu'on a acheté là, mais aussi des morceaux de bois cassés, enfin tout un tas de détritus. Ça fait qu'on n'arrive pas à faire le tri entre ce qui intéresse l'affaire et ce qui est de l'ordre de l'anecdote.
Aucun témoignage, peu d'indices matériels. Les policiers misent désormais sur l'autopsie pour les aider. Février 2000, à l'Institut médico-légal de Garches, l'autopsie révèle les premiers secrets du cadavre.
On sait quand même assez vite qu'il s'agit d'un homme, qu'il a une trentaine d'années, on arrive à faire une vague idée de sa taille.
Il s'agit d'un individu de sexe masculin, mesurant environ 1,80 m, pesant vraisemblablement aux alentours de 70 kg, âgé de 25 à 35 ans environ.
Autre constatation, la mort est assez récente, elle remonterait à quelques jours, 2 semaines maximum.
Les médecins légistes vont faire un certain nombre de prélèvements, notamment dans le sang, dans les viscères.
Et c'est l'analyse de l'estomac qui va apporter une toute nouvelle information. Une information qui s'avérera particulièrement utile par la suite.
Un laboratoire de toxicologie a analysé le sang et ce laboratoire a découvert la présence d'un somnifère.
Aussitôt, une question se pose. L'homme a-t-il absorbé ses médicaments de son plein gré ? Quelques minutes plus tard, au moment de disséquer les poumons de la victime, les légistes établissent les circonstances exactes du meurtre.
On retrouve à l'intérieur des poumons, on retrouve des suies, c'est-à-dire des traces d'inhalation de l'incendie, de la fumée.
Et ça, c'est très important, parce que ça signifie une chose, c'est que pendant qu'il brûlait, la personne respirait. Ça signifie qu'il a été brûlé vif.
La carbonisation a eu lieu alors que la victime était vivante.
La découverte du cadavre fait apparaître qu'il a essayé de s'agripper et on voit sa main qui s'accroche à un bout de bois et à de l'herbe, probablement pour essayer de remonter le talus. Donc on sait que la victime est morte dans d'horribles souffrances.
Pour les médecins légistes, c'est donc la carbonisation qui est à l'origine de la mort. Une chose est sûre, l'homme a dû agoniser pendant de longues minutes. Reste à identifier le cadavre, mais les résultats des analyses se font attendre, alors les policiers vont procéder autrement. Pour tenter de mettre un nom sur la victime, les hommes de la brigade criminelle de Versailles n'ont qu'une solution, étudier l'ensemble des disparitions signalées ces derniers mois.
Travail fastidieux là encore pour les enquêteurs puisqu'ils mettent des jours et des jours à recouper des fiches.
Et par rapport à l'âge, par rapport à la taille, par rapport à la description physique, enfin de tous les éléments qu'ils détiennent, vont essayer de faire recouper les choses.
Après plusieurs dizaines d'heures d'études, les enquêteurs repèrent une fiche qui pourrait correspondre.
Ils vont se rendre compte qu'il y a une personne qui a disparu. Alors qu'il n'y a pas une disparition véritablement, c'est pas sinon une disparition, c'est quelqu'un qui aurait quitté le domicile conjugal.
Il s'agirait d'un homme de 37 ans, disparu depuis une quinzaine de jours, et il s'agirait d'un certain Joël Després.
Les enquêteurs ne disposent que de cette vieille photo de Joël Després au service militaire. Mais tout indique qu'ils sont sur la bonne piste.
Le signalement correspond, l'âge, la tranche d'âge du cadavre qui se trouve entre 30 et 50 ans correspond, la taille correspond. Donc ils vont sortir cette fiche et puis pousser un peu plus loin les investigations.
Cet homme, ce Joël Després, c'est un père de famille qui a 5 enfants, qui sont âgés à l'époque de 3, 4, 5, 7 et 11 ans. Et c'est un déménageur qui travaille en Seine-Saint-Denis.
Pour savoir si le cadavre appartient bien à ce Joël Després, une comparaison de la dentition est effectuée. Les résultats ne laissent plus de place au doute.
Et bon, bah, cette comparaison dentaire, elle va être implacable. Elle va dire, voilà, le cadavre d'Erani, qui se trouve sur les bords de l'Oise, c'est le cadavre de Monsieur Després. Donc là, à partir de ce moment-là, les policiers, ils ont un nom, ce qui est fondamental dans les enquêtes. Donc là, ils peuvent commencer véritablement à chercher ce qui s'est passé.
72 heures après la découverte du corps, les policiers se rendent à Franconville pour annoncer à Nathalie Després, la femme de Joël, la mort de son mari. Ils ont apporté avec eux l'une des chaussures trouvées sur la scène de crime. Leur but, tenter de trouver un début d'explication.
Comme élément de reconnaissance, on a pu prélever une chaussure qui n'est pas trop entamée par les feux et qui, pense-t-on, va pas trop choquer quand même l'épouse, puisque à ce moment-là, on est dans une démarche d'annonce d'un décès.
C'est au commandant Jean-Louis Guilleneuf que revient la tâche difficile d'annoncer à Nathalie Després la terrible nouvelle.
La porte nous est ouverte par une dame qui se présente comme étant Madame Nathalie Després. Je lui présente la chaussure que l'on a récupérée sur le corps. Elle marque un temps d'arrêt, un choc psychologique. Je comprends à ce moment-là qu'elle vient de recevoir une annonce traumatisante.
Nathalie Després est effondrée. Mais les policiers doivent l'interroger. Ils la conduisent au commissariat. La jeune femme leur raconte avoir vu son mari pour la dernière fois 3 semaines avant le drame. C'était le 21 janvier 2000.
Nathalie, elle raconte une disparition qui n'a rien d'inquiétant. Elle se souvient de l'avoir entendu partir le matin. Elle l'a même vu en tenue de déménageur puisqu'il travaillait dans une société de déménagement.
Le vendredi 21 janvier, mon mari est parti au travail avec son véhicule R18. Il est parti vers 6h15, comme tous les matins.
Pour elle, la dernière fois qu'elle l'a vu, il partait travailler. Et elle ne comprend pas ce qui a pu lui arriver.
Nathalie précise que depuis sa disparition, elle a tenté de nombreuses fois de joindre son mari.
Elle l'a appelé à plusieurs reprises, elle a envoyé des messages, des textos, sans aucune réponse. Il est parti avec sa voiture et depuis, il a disparu corps et biens.
Sans nouvelles de Joël, quelques jours après sa disparition, Nathalie Després a signalé à la police un abandon de domicile conjugal. Car depuis plusieurs mois, explique-t-elle, leur couple allait très mal. D'ailleurs, à la grande surprise des enquêteurs, la veuve dresse un portrait très négatif de son ex-mari.
Son épouse le décrit comme un homme extrêmement possessif, jaloux, buveur excessif et qui pouvait, dit-elle, se montrer violent à son égard.
Il buvait des bières et du pastis, cela suffisait pour qu'il ait un comportement agressif vis-à-vis de moi et des enfants. Il les insultait mais ne les frappait pas. Lors d'une dispute, mon mari m'a retourné le poignet pour m'empêcher de partir de l'appartement.
Nathalie Després ne s'arrête pas là. Elle explique qu'elle avait décidé d'entamer une procédure de divorce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'absence soudaine de son mari ne l'avait pas particulièrement inquiétée.
Nathalie argumente la disparition de son mari, de Joël Després, en disant, bon, écoutez, on est en instance de divorce, je pense qu'il a simplement voulu prendre l'air, un peu respirer, faire le point. C'est vrai qu'au début, il n'était pas très pour cette histoire de divorce, et puis finalement, il a l'air de s'y être fait. Et d'ailleurs, pour preuve, il est parti.
Nathalie Després explique aux enquêteurs que les problèmes du couple ont débuté en 1996, lorsqu'après 12 ans de mariage et 4 enfants, elle est de nouveau tombée enceinte.
Nathalie ne veut pas cet enfant. Elle ne veut pas le garder, elle ne souhaite pas le garder. Et c'est Joël qui insiste.
Elle explique que la cinquième, la petite Laura, n'était pas prévue, qu'elle n'en avait pas envie, qu'elle n'avait pas envie d'être une cinquième fois enceinte, d'avoir une cinquième enfant.
Et ce n'est pas tout. La tension au sein du couple était également alimentée par des finances désastreuses.
Le couple Després, c'est un couple qui a des difficultés financières certaines, qui vit de façon assez chiche, avec peu de revenus, puisque Nathalie Després ne travaille pas, ils ont 5 enfants, Joël Després est déménageur avec un salaire qui est assez modeste.
Alors le couple est interdit bancaire depuis 1993, et c'est la raison pour laquelle Joël fait des extras en marge de son emploi de déménageur dans la sécurité. C'est une situation financière extrêmement compliquée dans la mesure où il y a 7 bouches à nourrir à la maison.
Un mariage qui bat de l'aile, une séparation programmée, tout naturellement, les enquêteurs se demandent si Nathalie Després a un amant.
Elle dit, d'ailleurs, elle parle de plusieurs aventures, d'une première, puis d'une deuxième.
Nathalie Després confirme avoir un nouvel homme dans sa vie. Il s'appelle Stéphane Essery. C'est un agent de sécurité au chômage de 29 ans. C'est aussi un ancien collègue de son mari.
Stéphane et Joël sont collègues de travail, puis amis. C'est par ce biais que Stéphane va rencontrer Nathalie. Ils s'invitent chez les uns, chez les autres. Et puis, très rapidement, cette relation va déraper. Il y a un véritable coup de foudre entre Nathalie et Stéphane Essery. Et ils vont très rapidement donc devenir amants. Tout le monde le sait, sauf Joël. Tout ça se passe dans son dos.
En effet, Nathalie Després précise que son mari Joël n'était au courant de rien. L'information paraît d'autant plus incroyable aux enquêteurs qu'ils découvrent que le mari et l'amant ne se partageaient pas seulement la même femme.
Les policiers vont découvrir que Stéphane Essery, donc l'amant de Nathalie, non seulement il est l'amant de Nathalie, mais en plus de ça, il vit à Franconville, au domicile de Joël Després, de Joël et de Nathalie.
En plus de leurs 5 enfants, Joël Després, son épouse Nathalie, et l'amant de cette dernière, Stéphane Essery, cohabite avec une 4e personne, Sandrine Essery, qui n'est autre que la femme de Stéphane.
Sandrine est là, la propre épouse de Stéphane, et qu'elle part cohabite également avec les Després dans cet appartement.
Les policiers n'en reviennent pas. Le mari, sa femme, l'amant et la femme de l'amant vivent sous le même toit. Nathalie va tenter d'expliquer aux policiers cette incroyable situation. Pour elle, il ne s'agissait que de rendre service.
Dans cet appartement de Franconville, les Essery arrivent parce qu'ils ont été expulsés de leur appartement.
Tout le monde a donc emménagé dans le 4 pièces des Després.
Je précise d'ailleurs que c'est un petit appartement et d'ailleurs, les enfants, ils sont 5, de Joël et Nathalie. Les enfants vont se retrouver à 7, puisqu'il y aura les 2 enfants de Sandrine et de Stéphane dans une même chambre, ce qui fait peu d'espace. Et donc, ils étaient vraiment les uns sur les autres, avec une importante promiscuité.
À la fin de l'audition de Nathalie, les policiers sont face à une situation qui frise le cocasse.
Là, les policiers commencent à se poser quand même sérieusement des questions. Voilà, quand on est dans un petit 4 pièces, qu'on a un type qui a disparu, que sa femme couche avec le copain qui est venu s'installer avec sa femme.
En une seule audition, les enquêteurs découvrent 3 suspects. Nathalie Després, qui ne supportait plus son mari. Stéphane Essery, qui aurait pu vouloir se débarrasser de son concurrent. Et même Sandrine, la femme de Stéphane, qui acceptait cette étrange situation. Alors les policiers décident d'entendre l'amant et sa compagne. Les enquêteurs convoquent Sandrine et Stéphane Essery. Pour commencer, ils veulent vérifier la véracité des propos de Nathalie Després. Ils interrogent donc le couple séparément. Et dès le début de son audition, Stéphane Essery reconnaît entretenir une relation adultère avec Nathalie Després. Une relation qui aurait débuté un mois avant la mort de son mari.
La première fois que j'ai eu un rapport sexuel avec Nathalie, c'était le 21 décembre 1999, dans la journée, quand Joël était au travail. Il n'en a jamais rien su, il ne nous a jamais surpris.
Plus surprenant encore, Sandrine Esri, la femme de Stéphane, ne semble pas se formaliser de la relation extra-conjugale de son mari. À l'en croire, elle était au courant depuis bien longtemps.
Elle nous explique qu'elle ne s'en est pas offusquée parce qu'elle-même n'a plus de relation sentimentale avec lui. Et elle nous confirme également que Joël Després n'était pas au courant de la liaison qu'entretenait son épouse avec Monsieur Esri.
Les policiers interrogent également le couple Esri sur la personnalité de Joël Després. Leur but, corroborer le portrait d'homme violent que Nathalie Després a dressé de son mari. Pour Stéphane Esri, l'homme était particulièrement agressif.
Joël n'arrêtait pas de gueuler sur sa femme, et des fois, il levait la main sur elle. Il la traitait de... Il traitait aussi ses enfants de bâtards et de fils de...
Stéphane Esri brosse un portrait extrêmement noir de Joël. Selon ses déclarations, Joël est quelqu'un qui bat son épouse, qui la viole, qui est extrêmement violent avec les enfants, avec les 5 enfants. Et Nathalie serait donc une femme battue.
De son côté, Sandrine Esri fait la même description de Joël Després.
C'était un garçon qui était... plutôt violent, qui avait tendance à abuser de la boisson, et elle nous en dresse un portrait plutôt négatif.
Enfin, Sandrine Esri confirme les propos de Nathalie Després. Elle aussi a entendu Joël partir travailler le jour de sa disparition.
Il est parti après avoir pris ses vêtements pour son travail, ses vêtements de déménageur. Il est parti travailler de bonne heure, 5h30, 6h, en sifflotant. En tous les cas, c'est ce que dit Sandrine Esri.
Interrogée individuellement, Nathalie Després, Stéphane et Sandrine Esri ont donné aux enquêteurs la même version des faits. Les policiers s'interrogent alors. Qu'est-il arrivé au déménageur après qu'il soit parti travailler ce matin-là? Et c'est une contravention qui va leur apporter un début de réponse. 48 heures plus tard, les enquêteurs reçoivent un appel. À l'autre bout du fil, la fourrière de Clichy-la-Garenne. On vient de leur apporter la voiture de Joël Després. Elle était abandonnée depuis 7 jours dans le centre-ville d'Épinay-sur-Seine, à une vingtaine de kilomètres de son domicile. Les enquêteurs se rendent immédiatement sur place.
Je vois une vieille R18 en mauvais état de carrosserie. J'inspecte l'intérieur et quelque chose me saute aux yeux, un élément me saute aux yeux. Je relève la présence de boue, une présence importante de boue séchée, sur le tapis de sol de la place passager avant.
Ce qui implique très vite qu'on sait qu'il y a au moins 2 personnes qui sont montées, une au siège conducteur, ça paraît assez logique, et une sur le siège passager. Ces 2 personnes ont fréquenté le même terrain un petit peu boueux à l'époque.
D'où vient cette terre? S'agit-il de celle de la scène de crime? Des échantillons sont prélevés pour analyse. Dans les heures qui suivent, au laboratoire de la police scientifique de Paris, des comparaisons sont effectuées entre la terre trouvée dans la voiture de Joël Després et celle qui a été prélevée autour du corps. Les résultats sont sans appel.
Sur les chaussures de la victime, sur les 2 tapis-sols de la voiture de Joël Després, c'est la même terre.
Conclusion, les criminels, qui étaient au moins 2, ont emprunté le véhicule de Joël Després pour quitter la scène du meurtre.
Voilà, donc là, il commence quand même à se dire que cette voiture, elle a peut-être servi à quelque chose de pas terrible, de pas très clair, et qu'en tout cas, c'est une pièce fondamentale de leur enquête.
Alors, question. Pourquoi les meurtriers ont-ils ensuite déposé la voiture à 26 km de là? Pour les policiers, il n'y a qu'une explication possible.
Et à partir de là, ils en déduisent assez logiquement qu'il y a eu une mise en scène.
On peut difficilement imaginer que Joël Després ait conduit sa voiture pour la ramener à Épinay-sur-Seine alors qu'il est brûlé dans un trou à Éragny. Donc ça veut dire que voilà, le corps a été transporté par plusieurs personnes avec la voiture de Joël Després à Éragny-sur-Oise et qu'après, ces personnes sont allées déposer la voiture à Épinay.
Les policiers vont vite avoir la confirmation de cette mise en scène sordide. Si la voiture de Joël Després a été stationnée à Épinay-sur-Seine, ce n'est pas par hasard.
La société de déménagement de Joël Després se trouve à Épinay, et sa voiture, sa R18, a été retrouvée dans le centre-ville d'Épinay, quelques kilomètres même pas du lieu de son travail.
Les criminels ont donc voulu faire croire que l'homme avait disparu non loin de son lieu de travail. Pour les enquêteurs, il devient urgent d'interroger l'employeur de Joël Després. Dans l'après-midi, les enquêteurs prennent la direction d'Épinay-sur-Seine. Ils se rendent dans les locaux de la société de déménagement pour laquelle travaillait Joël Després. C'est la patronne en personne qui leur ouvre la porte et celle-ci va leur révéler une information cruciale.
Quand ils vont lui demander l'emploi du temps de Joël Després, les jours où il travaillait, les jours où il ne travaillait pas, ils vont se rendre compte que le fameux jour où sa femme l'a vu partir un matin avec sa tenue de déménagement pour aller travailler à Épinay-sur-Seine, ce jour-là, il ne travaillait pas. Il avait posé le vendredi.
Et là, c'est un coup de tonnerre dans l'enquête parce que jusqu'à présent, Nathalie avait affirmé que le 21 au matin, il s'était habillé vers 6 heures et qu'il était parti travailler avec sa voiture. Et là, ils ont la preuve qu'il n'a pas travaillé. Et plus extraordinaire encore, il a posé à l'avance sa journée.
Pourquoi Nathalie Després et Sandrine Essery ont-elles affirmé que Joël Després était parti travailler ce matin-là? Pour les policiers, il n'y a que deux possibilités.
De deux choses. L'une, soit les deux femmes mentent depuis le début, soit Joël aurait dit qu'il allait travailler et en aurait profité pour partir, pour quitter son domicile.
Mais les policiers vont vite obtenir une réponse à leurs questions. Car Joël Després avait confié à sa patronne ce qu'il avait prévu de faire ce vendredi-là.
Ce vendredi, il avait rendez-vous avec une agence bancaire pour ouvrir un compte. Et en contactant l'agence bancaire, on s'aperçoit qu'il ne s'est pas présenté le matin, comme prévu, à ce rendez-vous d'ouverture de compte.
Ce vendredi-là, Joël avait également pris rendez-vous avec un avocat pour son divorce. Après vérification, il ne s'y est pas rendu non plus. Ces deux rendez-vous manqués signifient-ils que Joël Després était déjà mort ce vendredi? Pour l'heure, impossible de répondre. Et ce n'est pas la seule question que soulève l'audition de la patronne de Joël Després. La description qu'elle dresse de la victime n'a rien à voir avec les témoignages que les policiers avaient jusque-là recueillis.
C'était un garçon gentil, sérieux et travailleur. Il ne m'a jamais donné l'impression d'une personne s'adonnant à la boisson.
Une version confirmée par l'enquête de voisinage menée par la PJ à Franconville, là où vivait Joël Després.
Des voisins de l'immeuble, des gens qui connaissent un petit peu le couple, font pas du tout ce portrait-là de Joël Després. Bien au contraire, ils disent que c'est un type qui vit pour son boulot, qui part tôt le matin, qui rentre tard le soir, qui n'a jamais été croisé par qui que ce soit Yves, qui fréquente pas les bistrots du quartier.
Plus les policiers rencontrent les proches du couple Després, et plus les témoignages coïncident. Joël Després était un homme aimé et serviable. Alors pourquoi sa femme a-t-elle menti aux enquêteurs ? D'autant qu'en interrogeant les voisins, les policiers découvrent que l'épouse se vantait même de mener une vie d'enfer à Joël Després. Tout le quartier était au courant.
Joël Després est devenu une espèce de tête de turc, la tête de turc de tout ce petit monde. Nathalie a commencé à détester son mari, au point de l'humilier en public, au point de l'affubler de surnoms ridicules, de Ducon, de Bourville.
Elle l'appelait mon toutou. Et tous se vantaient de pouvoir faire ce qu'ils voulaient à Joël. Et c'est vrai, parce que Joël était prêt à tout.
Alors c'est des blagues de très mauvais goût, on lui verse du détergent dans le café, on lui sert à manger quand on a envie de lui servir à manger, on se moque de lui dès qu'on peut se moquer de lui.
Grâce à tous ces témoignages, les hommes de la PJ comprennent alors la présence de la liste de courses sur le cadavre carbonisé. Joël Després était l'homme à tout faire, et même la vache à lait du foyer.
Et puis, il découvre aussi que Joël, c'est le seul à travailler dans la maison, que c'est lui qui fait les courses, que c'est lui qui fait le ménage.
Comment Joël Després a-t-il pu accepter d'être humilié en permanence par son épouse? Les voisins sont unanimes, l'homme aimait passionnément Nathalie.
Joël est un homme qui était éperdument amoureux de sa femme et qui aimait profondément ses enfants et qui s'est laissé maltraiter, s'est laissé appeler Ducon, s'est laissé appeler Bourville pour pouvoir être près de sa femme et de ses enfants.
Pour les policiers, ces auditions agissent comme un détonateur. Nathalie Després, Stéphane Essery et Sandrine Essery leur ont menti sur toute la ligne. Pire encore, les enquêteurs vont découvrir que Joël Després avait fini par comprendre que sa femme le trompait ouvertement. Parmi les personnes entendues, les enquêteurs interrogent un certain Gérard Thomas, le chef d'équipe de Joël Després à l'entreprise de déménagement. L'homme explique que quelques jours avant sa mort, Joël Després lui avait fait une incroyable confession. La scène se passe le dimanche 16 janvier à 6h du matin. Joël rentre dans l'appartement de Franconville après avoir travaillé toute la nuit comme vigile.
Le dimanche matin, il rentre du travail, fatigué, épuisé, là.
Il rentre tout doucement pour ne réveiller personne.
Et quand il pousse la porte de la chambre conjugale, il découvre sa femme, mais pas seule.
Il distingue deux formes dans son lit, celle de son épouse, et puis d'un homme à côté qui dort en caleçon.
Elle est en nuisette, la nuisette assez relevée sur le haut du corps, et à ses côtés dort Stéphane Essery.
Il va s'adresser à sa femme, lui demander ce que Stéphane fait dans le lit, et sa femme lui répond « il dort ».
Alors Stéphane lui répond qu'il s'est trompé de lit, ensuite il lui explique qu'il est venu bavarder avec Nathalie et puis qu'il s'est endormi là. Enfin, autant de choses totalement incohérentes que personne ne peut croire, même pas Joël.
Face à ces explications peu crédibles, Joël Després tente malgré tout un geste de réconciliation avec sa femme.
Il va chercher à embrasser sa femme. On ne sait pas trop dans quelle démarche, mais en tout cas pour lui dire qu'il ne lui en veut pas, qu'il l'aime toujours, il va récolter une paire de gifles. Donc c'est un petit peu le monde à l'envers.
Vous savez, quand il y a un désamour, on essaye la gentillesse, parfois effectivement la violence, on essaye tout pour essayer de faire comprendre à l'autre qu'on ne l'aime plus et il a du mal à comprendre.
Sous le choc, Joël va réveiller ses plus grands enfants âgés de 8 et 11 ans et les fait venir dans la chambre.
Regardez votre mère, regardez ce qu'elle me fait. Et il s'effondre en larmes.
Il pleure, il est désespéré, les enfants sont là. Ils sont pris à témoin de cette mère au lit. Mais enfin, pour les enfants, c'est pas non plus une surprise, parce qu'on se rend compte que les enfants, ils savaient.
Gérard Thomas, le confident de Joël Després, assure aux enquêteurs que jusque-là, son ami ne se doutait de rien.
Là, il y a un élément de réalité qui fait qu'il ne peut plus se voiler la face, qu'il ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Et je pense que vraiment, pour intégrer ça, pour y croire, il faut non seulement qu'il le voie, bien sûr, mais aussi qu'il fasse constater par ses enfants le fait qu'il est trompé.
Là, il y a un point de non-retour qui est franchi, c'est-à-dire que là, de façon définitive et officielle, Nathalie est avec Stéphane Essery. Joël Després ne peut même plus avoir accès au lit conjugal et à la chambre conjugale.
Chose incroyable, selon le collègue de Joël Després, suite à cet épisode, l'homme décide de rester chez lui et même de reconquérir sa femme.
Il va encore tout tenter pour essayer de sauver son couple en offrant un cadeau à son épouse. C'est dire comme il l'aime.
Que Joël Després reste là malgré tout, ne s'en va pas, ne quitte pas le domicile, continue à aimer sa femme, donc continue à être cette espèce de... C'est terrible à dire, mais de personnage un peu collant, un peu qui n'accepte pas de céder sa place.
Il devient finalement un témoin gênant et un obstacle au bonheur d'une femme qui veut échapper à son ordinaire, qui veut échapper à son quotidien et qui a le sentiment qu'elle peut refaire sa vie, d'autant qu'elle s'imagine qu'elle pourra faire de Stéphane un père de substitution.
Grâce au témoignage du collègue de Joël Després, les enquêteurs disposent désormais d'un mobile. Pour eux, cela ne fait plus de doute. Les deux amants, Nathalie Després et Stéphane Essery, ont assassiné Joël Després, ce mari devenu gênant. Mais de nombreuses questions restent sans réponse. Ont-ils agi seuls ? Sandrine Essery est-elle complice ? En guise de réponse, les policiers vont bientôt voir apparaître dans cet incroyable quatuor amoureux un nouveau personnage. Face à tant d'interrogations, les hommes de la PJ décident de reprendre les auditions des proches du couple. Et un nom, dans la déposition du propre frère de Nathalie Després, va retenir leur attention.
La dernière fois que j'ai vu Joël remonte au jeudi précédant sa disparition. Ce soir-là, il y avait Stéphane et Sandrine Essery et William Le Guillon.
Eh bien, William Le Guillon est l'amant de Sandrine, Sandrine Essery, la femme de Stéphane Essery.
Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Ils vont découvrir que William Le Guillon vit lui aussi chez les Després.
On a quand même une situation qui est un petit peu inédite. Les policiers ne sont pas là pour porter des jugements moraux ou des jugements de valeur sur la vie de chacun, mais ils se rendent compte quand même que sous le même toit, il y a Joël Després, sa femme, l'amant de sa femme, la femme de l'amant de sa femme et l'amant de la femme de l'amant de sa femme. Bon, c'est assez compliqué à comprendre et en tout cas, c'est assez intéressant pour que ça intrigue les policiers qui se disent « Bon, il y a peut-être déjà quelque chose qui cloche à ce niveau-là. »
Et là, d'un seul coup, ça devient plus clair quand même l'histoire. C'est-à-dire que c'est une sorte de réca. Les policiers disent « Bah ouais, ça y est, c'est bien sûr. » Joël ne voulait pas entendre parler de divorce. Et à partir de là, ma foi, ils ne se sont pas compliqués la vie. À partir du moment où ils ne voulaient pas divorcer, son sort était scellé. D'autant qu'il les avait surpris en flagrant délit. Il fallait qu'ils disparaissent.
Ces deux couples recomposés avaient donc tout intérêt à se débarrasser de Joël Després, l'empêcheur de s'aimer en rond.
Donc les policiers commencent quand même à se dire, bon, le scénario de nous dire, voilà, il est parti travailler, il a disparu, il n'est pas revenu, ça colle pas, ça peut pas coller. On sait maintenant qu'il y a plusieurs personnes qui se sont occupées de transporter le corps. On sait donc qu'il y a eu un scénario qui a été monté, puisqu'on s'est donné la peine d'aller mettre la voiture près d'un lieu où Joël Després est censé aller travailler.
Les enquêteurs ont une hypothèse. Joël Després serait rentré chez lui le jeudi soir. Deux des protagonistes l'auraient ensuite conduit dans sa propre voiture à Éragny-sur-Oise pour le brûler. Une fois le crime commis, ils auraient abandonné la voiture près du travail de Joël à Épinay-sur-Seine. Pour vérifier si leur hypothèse se tient, les policiers disposent d'un atout considérable. Les enquêteurs apprennent que la veille de sa disparition, Joël Després a conduit sa voiture au garage.
La fameuse R18 de Joël Després, elle sort du contrôle technique quasiment. Donc ils savent de façon mathématique que lorsqu'elle est rentrée au contrôle technique quelques heures avant que Joël Després disparaisse, elle avait tant de kilomètres et que quand il la retrouve à Épinay, elle a à peu près, je crois, une cinquantaine de kilomètres en plus.
D'après le calcul des policiers, la R18 a très exactement parcouru 47,9 kilomètres. À quoi correspond cette distance ? Les enquêteurs vont prendre leur propre voiture et refaire ce qu'ils pensent être le trajet de la R18 la nuit du crime.
Les policiers vont refaire le chemin. Ils vont refaire le parcours du garage où le contrôle technique a été effectué. Ils vont aller à Franconville au domicile de Joël Després. Ensuite, ils vont se rendre sur les lieux du crime. Puis ils vont se rendre là où on retrouve le véhicule, à Épinay-sur-Seine.
Le résultat du kilométrage semble à peine croyable. 47,9 km, exactement la même distance que le trajet qu'aurait effectué la voiture de Joël Després. Pour les policiers, c'est une petite victoire. Leur hypothèse colle parfaitement.
On a le chemin du véhicule et le chemin des assassins.
Les policiers disposent désormais d'une conviction forte, mais toujours pas de preuves. À eux, désormais, de déterminer l'emploi du temps des quatre suspects au moment du crime. Nathalie Després, William Le Guillon, Stéphane et Sandrine Essery affirment être restés à l'appartement des Després le soir de la mort de Joël. Pour vérifier leur alibi, les enquêteurs examinent la téléphonie du quatuor.
La fameuse nuit du 20 au 21 janvier, il y a trois appels qui sont passés. Entre 1h30 du matin et 2h du matin à peu près. Et évidemment, le fait de pouvoir retracer ces trois appels, ça permet aussi de les géolocaliser.
Chaque appel passé avec un téléphone portable active un relais téléphonique. Il le borne comme on le dit dans le métier. Et la géolocalisation des appels de Stéphane Esri va prouver que l'homme a menti.
À 1h43 et à 1h44 du matin, Stéphane Esri appelle Nathalie. Là, il borne sur Franconville. Et il y a un dernier appel qui est à 2h06 qui, lui, borne sur Éragny, c'est-à-dire sur les lieux du crime.
Les horaires des appels coïncident avec l'heure de la mort de Joël Després. En effet, souvenez-vous, la montre carbonisée s'était arrêtée à 2h15. On peut donc facilement supposer que Stéphane Esri a appelé Nathalie Després juste avant ou juste après avoir participé à l'assassinat de Joël.
Physiquement, la téléphonie permet d'établir la présence de Stéphane Esri à la fois à Franconville et surtout sur les lieux du crime, c'est-à-dire à Éragny.
10 mai 2000, à l'aube, Nathalie Després et Stéphane Esri sont arrêtés ensemble. Au même moment, à Aulnay-sous-Bois, Sandrine Esri et William Le Guillon sont conduits à la direction régionale de la police judiciaire de Versailles. Et dès les premières minutes, les enquêteurs sentent que la jeune femme est sur le point de craquer.
Sandrine Esri, elle est très mal tout de suite parce que dès que les policiers la montent dans la voiture pour l'emmener au commissariat pour l'entendre, elle est, je crois qu'ils sentent qu'elle est quasiment prête à parler déjà dans la voiture.
Dans la voiture, ils ont dit « Allez, ma cocotte, on sait très bien que t'as rien fait. On sait très bien que t'es passive. On sait très bien que t'as pas participé. Dis-nous la vérité. 7h15, commissariat, premier procès verbal. Je vais vous dire la vérité. »
Arrivée au siège de la PJ, Sandrine raconte en détail ce qu'elle sait de l'affaire. Tout commence dans l'appartement de Franconville, le mardi 18 janvier, deux jours seulement après que Joël Després a découvert sa femme au lit avec Stéphane Esri. Sandrine raconte que ce jour-là, elle entend parler pour la première fois du macabre projet, se débarrasser de Joël Després.
Stéphane a dit « J'en ai marre, il faut qu'on tue Joël ». Il a dit que Nathalie avait donné son feu vert, mais qu'il ne savait pas comment faire. Je n'étais pas d'accord, je voulais partir avec les enfants, mais Stéphane m'a menacé.
Le lendemain, Sandrine aperçoit Stéphane Esri s'entretenir avec William Le Guillon. Il sait que cet ancien soldat peut trouver le moyen d'éliminer Joël Després.
William Le Guillon, c'est un ancien militaire, c'est-à-dire qu'il a fait... la guerre du Golfe, il a opéré également au Kosovo. Il a cette espèce un peu d'aura d'ancien militaire, reconverti dans la sécurité. C'est quelqu'un qui est physiquement assez imposant à l'époque. C'est lui qui va essayer d'affiner un peu le mode opératoire en disant voilà, il y a plusieurs solutions, soit on utilise une arme à feu, soit on l'égorge. Après, de toute façon, il faudra se débarrasser du corps, donc pourquoi pas le brûler.
24 heures plus tard, le 20 janvier, Sandrine raconte qu'en passant devant la cuisine, elle surprend un curieux manège.
Sandrine comprend que c'est ce soir-là que ça va se passer. Elle comprend que c'est ce soir-là que ça va se passer parce qu'elle voit Stéphane en train de broyer les cachets de l'exomile et les mélanger à la nourriture.
Stéphane Esri écrase plusieurs comprimés du puissant anxiolytique, tandis que Nathalie Després prépare un bœuf en sauce. C'est dans ce plat que sera versée la poudre de médicaments. Sandrine raconte ensuite que vers 21h, Joël Després rentre de son contrôle technique. La bonne humeur règne dans l'appartement, et pourtant le plan machiavélique est enclenché.
Il y a une ambiance assez festive, d'ailleurs tout le monde est assez joyeux, on fume un peu de cannabis, on boit un peu d'alcool, etc. Donc Joël, comme c'est le bon gars, il boit un peu d'alcool aussi, il fume un petit peu.
Pour la première fois depuis fort longtemps, eh bien, Nathalie joue l'épouse modèle. Elle lui prépare, elle lui réchauffe son assiette. Et d'ailleurs, entre Stéphane et elle, il s'applique autour de lui à ce qu'il mange convenablement.
Et pour cause, l'assiette de bœuf en sauce contient la forte dose d'anxiolytique qu'ils ont écrasée. Mais comme il sentait quelque chose, Joël s'arrête bientôt de manger.
Il commence son assiette de bœuf en sauce, mais très vite, il a plus faim, il y en a trop dans l'assiette, et il veut plus manger, il veut s'arrêter. Et là, D'habitude, on se foutait un peu de ce qu'il pouvait faire ou ne pas faire, mais là, Stéphane Esserie n'est pas très content parce qu'il voudrait bien qu'il finisse quand même son assiette de bœuf en sauce. Donc, on le force quasiment à manger.
Le cocktail d'alcool, de cannabis et de médicaments fait rapidement son effet. Joël n'est déjà plus dans son état normal.
Le mélange est détonnant chez quelqu'un qui déjà supporte pas l'alcool. Alors il commence à délirer, il parle de bête verte, enfin il hallucine. Quoi.
Puis il finit par aller s'affaler sur un canapé dans le salon. Il s'endort, une espèce de semi-conscience. On ne sait pas s'il est sous, si c'est le cannabis, si c'est l'exome, il s'est probablement un peu détroit.
Il est presque minuit et la première partie du stratagème s'est déroulée comme prévu.
Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième phase des opérations telle que ça a été pensé par notamment le duo Esserie-Le Guillon.
Eh bien, ils l'ont changé, ils l'ont habillé en tenue de travail.
Puis on va le transporter, puisqu'il ne peut plus marcher tout seul.
C'est Nathalie qui tient la porte. Elle dira, n'oubliez pas laisser les chaussures de sécurité, parce qu'il faut rendre le scénario crédible, hein, qu'il est parti au travail. Si on laisse les chaussures de sécurité ici, ça ne va pas.
Ils l'ont descendu dans l'ascenseur, l'une tenant la porte, l'autre aidant, enfin bref, tout le monde a participé.
Puis après, on va le sortir, on va le mettre dans le coffre de la R18.
Le récit de Sandrine s'arrête là. Elle n'en sait pas plus puisqu'elle est restée à la maison. Mais les enquêteurs disposent maintenant d'assez d'éléments pour interroger les autres suspects.
C'est des aveux en cascade. La police savait que c'était le maillon faible. Et à partir de ce moment-là, ils vont interroger William.
Grâce à l'interrogatoire de William Le Guillon, l'amant de Sandrine Esserie, les policiers sont en mesure de reconstituer la suite des événements, le moment où il a fallu se débarrasser de Joël Després qui se trouve dans le coffre de la voiture.
William prend le volant de cette Renault 18, tandis que Stéphane, lui, va suivre avec sa voiture personnelle. Le convoi est en route, il s'arrête dans une pompe à essence, prendre 4 litres d'essence.
Avec Joël dans le coffre, vivant.
Et donc on se retrouve sur le chemin de halage, il est en pleine nuit, il est à peu près 1h30, 2h du matin. Et donc là, il repère un trou naturel, entre guillemets, dans le sol.
C'est William qui est le plus costaud, qui va sortir le corps inanimé, endormi de Joël. Il va le pousser dans le trou. Stéphane déverse le produit inflammable, l'essence, sur le corps, allume un chiffon imbibé d'essence, il le jette comme ça, le corps prend feu.
Rendu inconscient par le cocktail d'alcool et d'anxiolytique, Joël Després se transforme rapidement en torche vivante.
Stéphane reste quelques minutes à regarder son rival se recroqueviller sous la chaleur. Tandis que William s'éloigne.
Quand ils ont brûlé le corps, il passe un coup de fil, Stéphane Esserie, à Nathalie Després. Et il dit, voilà, c'est fait, on est tranquille, on est débarrassé. Enfin, voilà, c'est vraiment, ça y est, on a... Ça fait tellement de temps que qu'on aurait dû le faire que là, voilà, ça y est, ce problème-là, on ne l'a plus, quoi. Ils repartent en marche arrière pour aller déposer, notamment, le R18 à Épinay-sur-Seine. Et donc, on laisse le corps flamber et se consumer après doucement dans le trou.
À 5h du matin, les deux hommes reviennent. Et tout le monde se met d'accord sur la façon dont a disparu Joël. Il est rentré ivre, la veille au soir, et est reparti travailler le lendemain matin, comme d'habitude. Mais ce que les criminels ignorent, c'est qu'ils n'ont pas acheté suffisamment d'essence. Le corps de Joël n'a donc pas brûlé entièrement. 15 jours plus tard, il sera retrouvé par les chasseurs. 21 octobre 2002, plus de 2 ans et demi après la mort de Joël Després, s'ouvre le procès des 4 accusés à la cour d'assises du Val-d'Oise. D'entrée de jeu, à la surprise générale, Nathalie Després revient sur ses aveux et se pose en victime.
Nathalie, elle a l'attitude du martyr. C'est Mater Dolorosa. Elle est victime de ce Stéphane qu'elle a cru aimer, qui l'a tellement trahi et qui en plus a assassiné son mari, le père de ses enfants. On hallucine de voir l'attitude qu'elle a.
Le président de la cour d'assises décide alors de confronter Nathalie Després à ses contradictions.
Face à ses dénégations, le président Hayat lui a lu son PV d'audition. En disant, madame, vous nous dites aujourd'hui que vous n'avez rien fait, que vous n'y êtes pour rien, que c'est lui, que c'est l'autre, etc. Mais vous n'avez pas toujours dit ça. Au début, en garde à vue, vous avez dit ça. C'était un soulagement. Sa mort nous a soulagés. On revivait, on repartait sur d'autres bases, etc. Est-ce que vous maintenez cela ?
Et là, il y a un silence de mort dans la salle. Et d'une toute petite voix, elle baisse la tête. Elle fait oui.
Et elle s'évanouit.
Elle a fini par reconnaître ce qui était de toute façon une évidence depuis le début, mais ce qu'elle essayait de contourner depuis l'ouverture du procès.
Pire encore, des témoins vont raconter à la barre l'attitude de Nathalie au lendemain de l'assassinat de son mari.
On sait dans l'enquête que non seulement elle boit la bouteille de champagne que son mari avait ramenée quelques jours avant, en quelque sorte pour fêter sa mort, enfin c'est pas autre chose que ça, et que ce soir-là, elle va passer des coups de fil sur le portable de son mari, dont elle sait qu'il est mort, qu'il est brûlé, et elle va lui passer des coups de fil en disant « on te garde une assiette, on t'attend, on te garde une coupe de champagne, etc. »
Les accusés ne peuvent plus se dérober. À présent, reste à déterminer leur responsabilité.
Chacun seul n'aurait jamais échafaudé un pareil scénario, mais on est quatre et finalement les responsabilités apparaissent un peu diluées.
Ce qui fait de ce groupe un quatuor, on a dit diabolique.
Après seulement 3 jours de procès, le jury se retire pour délibérer. 24 octobre 2002, 3 heures de délibéré auront suffi. Le verdict tombe. Stéphane Esri écope de la prison à perpétuité, une condamnation qui sera réduite à 30 ans en appel. 30 ans de réclusion également pour William Le Guillon et Nathalie Després. À l'énoncé de sa sentence, la jeune femme s'effondre. Concernant Sandrine Esri, en tant que simple complice, elle n'écope que de 8 ans de réclusion. Seule à avoir été libérée, la jeune femme a divorcé de Stéphane Esri en prison. Depuis, elle a refait sa vie.